Europe Midi, Raphaël Delvolvé.
De retour sur Europe 1, place au débat d'Europe Midi. J'accueille Guillaume Vuilletet, député Renaissance. Bonjour.
Bonjour.
Et pour lui donner la réplique, la contradiction, Amine Elbaï, porte-parole Les Républicains. Bonjour.
Bonjour.
L'actualité aujourd'hui, c'est cette sécheresse historique, la pire jamais vue. Ce sont les termes employés par Matignon. La cellule de crise interministérielle est réunie en ce moment autour d'Elisabeth Borne. À ce jour, 96 départements, donc aucun n'y échappe, sont concernés par des vigilances. 93 font l'objet de restrictions. 62 sont considérés comme en crise. Là, ça veut dire que les restrictions sont encore plus importantes. Je m'adresse à Guillaume Vuilletet. Vous étiez écologiste, enfin membre du parti Europe Écologie Les Verts dans un passé pas si lointain. Il va falloir s'habituer à ces sécheresses toujours plus intenses, toujours plus longues, toujours plus répétées dans l'année. Est-ce qu'il va falloir en fait revoir d'urgence notre modèle agricole?
Ah ben, je pense qu'on est déjà en cours de sa réécriture. Marc Fesneau et Christophe Béchu étaient dans les Alpes d'Haute-Provence aujourd'hui ou hier, je ne sais plus exactement. Mais enfin, ils sont exprimés très clairement là-dessus. On a déjà mis 600 millions d'euros pour pouvoir prévoir, justement pour anticiper cette crise. Mais il y a des choses qu'il va falloir changer. Il va falloir avoir une agriculture qui va être mieux organisé et plus sobre en la matière. Il faut accompagner le secteur. Et puis même changer des choses. Je vais vous raconter une histoire. D'ailleurs, ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Il y a un syndicat d'assainissement dans ma circonscription qui est le SICTUB, qui est présidé par Daniel Dess, qui est un monsieur que je salue parce qu'il est vraiment très efficace, qui se pose la question, que faire de l'eau qu'on a traitée? Aujourd'hui, on la rejette dans l'Oise. Bah, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait plutôt d'avoir un système qui permette de s'en servir pour l'arrosage et justement d'éviter de taper dans la nappe phréatique? Donc on a tout un système à changer, à faire évoluer, parce que la réalité du dérèglement climatique, elle est là, qu'il y a des conséquences sur la gestion de la ressource en eau, c'est évident, il faut l'assumer collectivement, en lien avec les collectivités locales, les acteurs économiques et le gouvernement. Et je pense que c'est ce qui est en cours.
Parce qu'on a le sentiment que le gouvernement est un peu pris de court, qu'il n'avait pas anticipé.
Ah, c'est pas vrai. Quand on met 600 millions d'euros sur la table, c'est-à-dire qu'on a anticipé, mais par contre, que ce soit une gestion qui se passe dans le temps, oui, évidemment, la transformation d'un système ne se fait pas en 15 jours.
Alors, il y a un débat, Amine Elbaï, qui émerge en ce moment, c'est est-ce qu'il faut révolutionner notre modèle agricole ou bien l'adapter au changement climatique?
Bien évidemment, l'adapter au changement climatique, mais peut-être rebondir sur les propos qui viennent d'être tenus. Moi, je pense que le gouvernement commet une nouvelle fois une erreur. Et effectivement, nous sommes pris de court par la sécheresse. Et d'ailleurs, dans mon département, dans le département du Nord, c'est la première fois que notre département est placé en alerte sécheresse, alors que généralement, dans le nord de la France, pardonnez-moi, il pleut un peu plus souvent qu'à Marseille. Toutefois, moi, je m'inquiète de la communication du gouvernement. C'est encore une fois les Françaises et les Français qui vont devoir payer pour les entreprises, pour les administrations. Alors qu'il conviendrait ici, sur cette question de la sécheresse, de responsabiliser d'abord en premier lieu les administrations, puis ensuite co-construire aussi et accompagner le travail des entreprises, en régulant bien évidemment les consommations en eau de la part de nos industriels, et puis enfin travailler et accompagner aussi les Françaises et les Français, parce que l'eau est d'abord une ressource nécessaire à la vie des Françaises et des Français, et à la vie de tout être humain, bien évidemment, sur Terre. Et plutôt que de créer une cellule interministérielle et mobiliser une police de l'environnement sous le contrôle de l'Office de la biodiversité, moi, je pense qu'il faudrait d'abord et avant tout protéger nos agriculteurs, protéger la production de toutes celles et ceux qui apportent un certain nombre de richesses dans notre pays, et aussi réguler les consommations en eau au sein des administrations.
Je pense que vous devez être rassuré par ce qu'on va faire, et par ce qu'on fait en réalité. Parce que la sobriété, évidemment, l'exemplarité doit venir d'abord de la puissance publique. Ensuite, les acteurs économiques doivent être impliqués. Et aussi, il y a sans doute des efforts à demander aux particuliers dans leur usage du quotidien. On n'invente pas l'eau. Il faut la gérer, il faut gérer nos ressources et faire en sorte qu'elle puisse être utilisée de façon parcimonieuse. Encore une fois, c'est une situation que la Terre entière subit. Le dérèglement climatique est à l'échelle de la planète. On met en œuvre des politiques qui permettent d'accompagner les agriculteurs. Et je crois, pour le coup, ce serait un mauvais procès de dire que le gouvernement est inactif par rapport à ça. Si on fait une cellule de crise, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une crise. Je pense qu'elle se met en place justement parce qu'on savait que ça risquait d'arriver. Et si jamais, s'il y a 600 millions d'euros sur la table, et ce n'est pas la première fois que le ministère de l'Agriculture fait en sorte qu'il y ait des moyens pour gérer les crises. Il y a la grêle juste avant, on vient de publier un décret qui permet de mettre 40 millions de plus sur la table pour gérer les effets de la grêle. La grêle, le dérèglement climatique, ce n'est pas que la sécheresse, c'est aussi cela. Voilà, il y a une politique qui, forcément, n'empêche pas la sécheresse.
Et nous pensons que c'est effectivement une très bonne mesure, et nous pensons qu'effectivement, il faut autoréguler et réguler les consommations en eau. Et avoir annoncé la création d'une cellule interministérielle d'urgence sur la question de la sécheresse est une bonne chose. Et nous devons effectivement accompagner ce mouvement. Et nous soutenons évidemment ce mouvement qui consiste à accompagner justement la question de la consommation en eau. Toutefois, ce ne sont pas les Français qui doivent payer le manque d'anticipation de la part du gouvernement sur cette question, et notamment sur les particuliers, sur les agriculteurs, sur toutes celles et ceux qui ont besoin justement de ces ressources vitales à la vie. On ne crée pas d'eau, et vous l'avez rappelé, vous avez raison.
Les agriculteurs qu'on accuse souvent de gaspillage, ils n'utilisent qu'1,7% des ressources en eau française.
Hein. Non, mais
quand vous interrogez la FNSEA, le grand syndicat agricole, ils vous disent qu'il ne pleut pas moins, il pleut différemment selon les périodes de l'année.
Alors visiblement, je mentirais en disant que je connais toutes les séries statistiques en la matière, mais là c'est le deuxième mois de juillet le plus sec depuis l'invention.
Mais il a beaucoup plu à l'automne dernier.
Quand on ne parle plus de réchauffement climatique, mais de dérèglement climatique, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est qu'on sait très bien qu'en effet, c'est plus des incidents climatiques dans un sens comme dans l'autre. On ne fera pas payer les gens, ce n'est pas ça le sujet. On va accompagner la transformation d'une agriculture pour qu'elle prenne en compte ces réalités-là. Il ne s'agit pas de faire payer ni les particuliers, ni les agriculteurs. Il ne s'agit pas de faire payer même les entreprises. Il s'agit de faire en sorte d'appeler tout un chacun, et avec l'exemplarité de la puissance publique, de faire en sorte que ces ressources soient mieux gérées et qu'on soit sobre.
Va continuer notre conversation. Excusez-moi, Amine El Bahut, je suis absolument désolé. Je vous ai coupé la parole. On reprend notre conversation dans quelques instants. Petite pause et on revient sur Europe 1. À tout de suite.
Europe Midi. Raphaël Del Volvé.
De retour sur Europe 1, nous sommes avec Guillaume Vuittet, député Renaissance, et Amine El Bahut, porte-parole Les Républicains, pour le débat d'Europe Midi. Mais avant, le rappel de l'essentiel de l'information avec vous, Guillaume Bion. Bonjour.
Bonjour Raphaël. Et cette sécheresse est la plus grave jamais enregistrée dans notre pays. La situation pourrait perdurer sur les 15 prochains jours, voire devenir plus préoccupante encore. Ce sont les mots ce matin d'Elisabeth Borne qui active la cellule de crise interministérielle. Une réunion est au programme d'ailleurs dans l'après-midi. L'objectif de cette cellule, remonter les informations régulière des préfets de départements dans les zones touchées et suivre l'impact de la sécheresse sur les infrastructures de production d'énergie et de transport. Concrètement, 93 départements sont donc en alerte sécheresse, dont les trois quarts au niveau de crise. Et par ailleurs, 9 départements du sud-est du pays sont en vigilance orange canicule, 5 en orange également pour des risques d'orage. C'est un Patrick Balkany creusé du visage et affaibli qui a fait son retour chez lui à Giverny au lendemain de l'annonce de sa libération conditionnelle par la cour d'appel de Paris. L'ex-maire de Levallois-Perret a quitté la prison de Fleury-Mérogis discrètement dans la matinée. Il y était incarcéré depuis février pour fraude fiscale. Les tensions ne faiblissent pas entre la Chine et les États-Unis. Pékin va imposer des sanctions à la chef des députés américains Nancy Pelosi et à sa famille proche après sa visite à Taïwan, un déplacement qui a déclenché la colère des Chinois et qui a vu le lancement de vastes manœuvres militaires. Au passage, la Chine annonce à l'instant mettre fin à la coopération avec les États-Unis sur plusieurs dossiers, notamment des négociations sur le changement climatique. Enfin, ce soir, lancement de la saison de football avec en ouverture Lyon-Ajaccio à 21h. Match à suivre, bien sûr, sur Europe 1 avec le retour d'Europe 1 Sport. Voilà Raphaël.
Merci beaucoup Guillaume Buan qui vous informe, vous accompagne jusqu'à 17h sur Europe 1.
Europe 1.
Et avec Guillaume Vuittet, député Renaissance, et Amine El Bahut, porte-parole des Républicains, nous évoquions justement cette sécheresse historique qui traverse la France actuellement. Et il y a quelque chose qui nous revient en mémoire. Ce sont ces vastes projets de retenue d'eau, de barrages, comme à Sivens, rappelez-vous. Des projets qui ont été abandonnés sous pression de militants écologistes, notamment, qui estimaient que ce n'était pas bon pour l'environnement. Mais ça apparaît comme une solution intéressante pour ça, Guillaume Vuittet.
Écoutez, je pense que ça fait partie des illustrations. Alors, Sivens, c'est évidemment le contexte dramatique qui va avec, fait que je pense que c'est compliqué de raisonner avec posément par rapport à ça. Mais il y a eu d'autres cas.
Les deux Sèvres,
il y a eu un débat d'ailleurs sur la suppression des retenues d'eau qui a été à l'Assemblée il y a de ça quelques temps. Je pense qu'il faut faire du cas par cas, d'une part. Il faut regarder là où c'est efficace, là où c'est utile, là où on doit préserver la biodiversité à tout prix et avoir cette logique de se dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Il y a un mix énergétique à trouver, dont celui des retenues d'eau et des barrages. Incidemment, on va mettre en urgence 100 millions d'euros pour l'adaptation des infrastructures hydrauliques, justement pour permettre la gestion de la sécheresse. Et vous parliez tout à l'heure du problème de qui va payer. On va faire un bilan sur les conséquences économiques mi-août de la sécheresse et voir comment on établit un régime d'aide. Ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, il va falloir sortir des postures pour être sûr qu'est-ce qu'on veut. Et dans le mix énergétique, il y a besoin de l'hydraulique. Donc, il va falloir aussi là-dessus qu'en effet, quelques personnes qui sont sur une posture écologique reviennent un petit peu à des choses beaucoup plus raisonnables.
Amine Elbaï.
Évidemment, sur la question, mais sur cette question, je pense qu'il n'y aura pas un grand clivage avec toutefois deux points, malgré tout. Sur la question de Sivens, je pense que la mobilisation des militants écologistes, je ne sais pas si on peut les appeler militants écologistes, mais plutôt les ayatollahs de l'écologie qui, sur chaque question d'un réflexe pavlovien, nous empêchent d'avancer dans l'intérêt général. Nous devons être fermes et remettre la question de l'intérêt général au service des Françaises et des Français. Sur cette question, monsieur, je tiens toutefois à vous dire que nous devons être capables de remettre la police de l'environnement là où elle doit se trouver et empêcher ces militants qui nous empêchent aujourd'hui de pouvoir avancer dans le sens de l'intérêt général pour les productions et les richesses naturelles qui permettent à tout un chacun, à tout être humain qui a besoin d'eau. Vous savez, aujourd'hui, il y a dans un certain nombre de communes des personnes très âgées qui n'ont pas accès à l'eau. Et moi, je veux, par exemple, saluer le travail dans ma commune, à Roubaix, le travail effectué par le Centre communal d'action sociale avec ce plan sécheresse qui consiste justement à travailler, parce que c'est une obligation qui incombe aux collectivités, qui consiste à travailler et accompagner toutes les personnes âgées afin de leur permettre de s'alimenter et de pouvoir évidemment s'hydrater. Sur cette question, sur la question de l'accès aux ressources en eau, je pense qu'il faut pas, il faut sortir des dogmatismes. Vous l'avez dit, bien évidemment, avec ces militants écologistes, mais il faut aussi, et vous parlez d'un bilan de 100 millions d'euros à l'issue du mois d'août, il faut aujourd'hui prendre des engagements. Il faut que le bilan de cette sécheresse n'incombe pas sur les impôts des Françaises et des Français. Les Françaises et les Français n'ont pas à assumer le manque d'anticipation, de préparation, alors que nous parlons d'urgence climatique, le manque de préparation du gouvernement sur la question de la sécheresse. Il faut responsabiliser les administrations, il faut responsabiliser aussi un certain nombre d'industriels et il faut préserver et sauvegarder avant tout l'intérêt des Françaises et des Français.
Alors Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, et Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, parle à la presse en ce moment dans les Alpes de Haute-Provence. Cette information que je vous donne juste, et je vous donne la parole ensuite, Guillaume Vuittet, 100 communes actuellement sont sans eau potable en France. Guillaume Vuittet.
Il y a deux choses. D'une part, je reviens à mon exemple du SICTUB, ce syndicat d'assainissement de ma circonscription qui est d'autres usages d'une eau retraitée, et ça fait partie des solutions. C'est un exemple, hein, véritablement. Maintenant, deux choses. Non, il n'y aura pas un impôt sécheresse, si c'est ça la question.
Vous mais prenez l'engagement aujourd'hui ?
D'une part, je n'ai pas la mesure, je suis pas en mesure de le faire en tant que député, mais ce n'est absolument pas dans l'intention du gouvernement de bâtir un impôt sécheresse. Mais par contre, il ne faut pas non plus leurrer. Quand il y a une action publique qui vise à réparer un désordre, c'est l'argent public qui le paye, hein, et ça c'est normal. Donc il ne faut pas non plus donner l'illusion qu'il y ait des choses gratuites en la matière, on pourrait en parler d'ailleurs sur d'autres sujets. En revanche, le but de le gouvernement n'est certainement pas d'avoir une taxation spéciale par rapport à ça, et en particulier, enfin, ni les agriculteurs, ni les particuliers ne sont dans un tel collimateur. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on ait tous des pratiques qui soient responsables en la matière, et l'administration doit être exemplaire.
Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les golfs ? Tiens, c'est un élu écologiste, le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui a soulevé ce problème hier. Il s'est insurgé contre des dérogations que l'on accorde aux golfs. C'est effectivement vrai. Les golfs ont le droit de consommer plus d'eau dans certaines régions soumises à des restrictions pour arroser, vous savez, les fameux greens. Ils doivent seulement réduire leur consommation de 20% entre 19h et 9h. Alors la Fédération française de golf a toutefois contredit le maire de Grenoble qui avançait des chiffres de 5000 mètres cubes d'eau utilisée par jour, la consommation de 12 000 habitants. Pour la Fédération de golf, les greens nécessitent 30 fois moins d'eau. Il avance 25 000 mètres cubes par tranche de 9 trous par an. Voilà. Est-ce qu'il faut interdire au golf d'utiliser de l'eau ? Il faut qu'eux aussi... Il soit soumis à des restrictions, Amine Elbaï.
Alors, sur cette question, sans sombrer dans le dogmatisme, il ne vous aura pas échappé qu'un certain nombre de clubs de golf sont aussi des sociétés, ce sont des entreprises, et qu'en cette période estivale, un certain nombre d'entreprises contribuent justement aux richesses de notre pays. Et que le préjudice, notamment en matière touristique, je pense notamment à nos amis anglais en Bretagne, serait toutefois conséquent pour un certain nombre de saisonniers. Et puis pensons aussi à celles et ceux qui travaillent, pensons à ces entreprises qui ont attendu justement cet été pour pouvoir travailler, pour pouvoir compenser les pertes liées à la crise Covid-19. Donc, il va falloir accompagner évidemment ces entreprises, il va falloir accompagner aussi les fédérations sportives, et puis à la fois réguler l'intérêt, le sens de l'État, l'intérêt général, les besoins aussi d'un certain nombre de départements, et les préfets ont le pouvoir justement de réguler les consommations en eau à certaines heures, pour un certain nombre de personnes dans un certain rayon, et ces mesures devront être adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi.
Guillaume Vuittet, c'est choquant de voir ces tuyaux d'arrosage en action sur les parcours de golf.
Il faudra plus en effet le pouvoir des préfets en la matière, et c'est un pouvoir important qui permet de réguler la consommation d'eau. Je voudrais demander à Eric Piolle s'il dit la même chose sur les terrains de foot et les terrains de rugby qui sont utilisés en ce moment parce que c'est les vacances et qu'on arrose et qu'on entretient aussi.
Ah, ou les piscines.
Incidemment, peut-être les piscines. Ce sont des enjeux économiques. Ce sont des enjeux économiques. Moi, je fais plutôt confiance aux industriels du secteur, aux entreprises, qui ont cette préoccupation depuis longtemps, parce que ce n'est pas nouveau. Et puis d'ailleurs, évidemment, ça passe aussi sur leur compte d'exploitation. Donc, ils ont un intérêt, une vision parcimonieuse. Je suis persuadé qu'elles feront l'effort en la matière. Et puis, j'en reviens toujours à mon exemple du SIC Tub, dont je fais décidément la promotion aujourd'hui.
Visiblement.
Mais non, mais parce que, regardez, pour arroser un golf, c'est quand même plus malin de prendre de l'eau qui a été retraitée plutôt que de prendre de l'eau dans la phréatique. C'est aussi ça qu'il faut mettre en place. Il y a des investissements à faire. Aujourd'hui, ces syndicats n'ont pas le droit de les faire. Donc, je pense qu'il faut accompagner. Il y aura sans doute des choses à faire au Parlement là-dessus. Mais ça fait partie justement du changement de modèle qu'on doit pouvoir mettre en œuvre.
Amine Elbaï.
Il y a sur cette question des initiatives formidables qu'il convient de mettre en avant. Vous parlez de votre métropole. Moi, je veux saluer par exemple les agents de la métropole européenne de Lille dans le Nord. Vous savez, les métropoles ont aussi un rôle à jouer avec les départements selon la répartition évidemment des compétences. C'est la loi MAPTAM. Il me semble que vous l'aviez voté. Moi, je pense qu'il faudrait accompagner ces métropoles et peut-être mettre en place un plan plus général de récupération des eaux usées durant les périodes d'automne, d'hiver, pour justement pouvoir les réutiliser l'été et pouvoir accompagner aussi ces nouvelles productions, ces nouvelles filières de production, ces filières de production locales, et puis adapter, quand on parlait tout à l'heure d'agriculture, adapter aussi un certain nombre d'initiatives et de les promouvoir. Moi, je veux prendre l'exemple d'une fameuse association à Roubaix. Ce sont des agriculteurs urbains, et l'agriculture urbaine représente à l'heure actuelle près de 10% des productions agricoles dans les communes en France. Il faut justement soutenir ces initiatives, et pour cela, ça suppose évidemment un sens de l'anticipation, et puis aller peu à peu vers ces objectifs qui vont nous amener d'ici à 2050 à réduire ces consommations en eau. Et puis, nous parlions aussi des agriculteurs, arriver peut-être à l'échelle plus globale de l'Union européenne au zéro carbone.
Merci Amine Elbaï. On va changer de sujet après une courte pause sur Europe 1. On va aller au Parlement faire un petit bilan de ce qui s'est passé ces trois dernières semaines. Ces longs et âpres débats de jour comme de nuit pour finalement cette adoption hier du paquet pouvoir d'achat. Des compromis entre Les Républicains et Renaissance. On va voir ça juste après une courte pause sur Europe 1. A tout de suite.